Bonjour chers amis et merci d'être avec nous pour nos rendez-vous catholiques du dimanche matin. Alors nous retrouvons ce matin Monseigneur Calvert, chevêque de Nouméa. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Dès le début de la mission, l'Église a eu à cœur de participer à l'éducation et des écoles ont été fondées. Les religieux et religieuses ont beaucoup donné dans cette tâche. Vous-même y avez participé.
Oui, c'est vrai.
Donc peut-on vous demander alors quelle a été, vous personnellement, votre expérience en particulier en tant que responsable de l'école catholique ou l'enseignement catholique, vous nous direz quel est le terme qu'on doit préférer, et puis les différents directeurs qui se sont succédés.
Alors c'est beaucoup de questions, mais c'est vrai, en reprenant historiquement, l'enseignement, l'éducation a eu un grand rôle dans la mission depuis le début. Alors cela, c'était non seulement dû au fait que de tradition, les pères maristes, ceux qui étaient les initiateurs du début de la mission, faisaient partie d'une congrégation qui avait, dans un de ses premiers buts, l'enseignement de la jeunesse, l'accompagnement de la jeunesse. Mais c'est vrai aussi dans d'autres endroits du monde où les missions étaient ouvertes par d'autres congrégations qui avaient une autre histoire, et les écoles ont toujours eu beaucoup d'importance dans les missions catholiques. Cela est dû à une chose qui est simple, c'était que faire des progrès dans la situation où les gens étaient rencontrés, ça passait par une meilleure formation. Et particulièrement une nécessité d'avoir une formation de cadre, à commencer de cadre pour l'Église, mais également de cadre pour le pays, pour la région où ils étaient. De sorte qu'on a vu en Calédonie, dès le début, les missionnaires, hommes et femmes, s'occuper de l'éducation de la jeunesse et on peut dire que tant du côté des garçons que des filles, ça a été un progrès et un succès qui a été essentiel à l'évolution de la société. Le rôle, par exemple, de l'éducation des filles dans une société qui était soit du côté mélanésien, soit du côté de la colonisation européenne, le rôle des filles n'était pas toujours enviable. Et donc, il y a eu un effort considérable qui a été fait, et il y a dans l'histoire des noms dont on se souvient, comme Sœur Marie de la Croix, comme les efforts des premiers pères pour ouvrir des écoles, quelquefois en étant en but à l'opposition d'un certain nombre de gouverneurs qui voulaient faire ça selon leur propre vue et avec lesquels ils se sont heurtés. Par exemple, le gouverneur Guillain. En fait, donc, l'œuvre de l'enseignement a continué à évoluer pendant une longue époque, on peut dire jusqu'en 1960 à peu près, eh bien, les écoles de mission s'occupaient presque seules de la formation des jeunes océaniens et océaniennes. C'était même à propos délibéré, c'est-à-dire on utilisait le vocabulaire « sont abandonnés aux missions, protestantes et catholiques ». Les catholiques étaient plus nombreux et avaient des structures dès le début de cette époque qui étaient plus importantes que les protestants, mais ils partageaient la même conviction que les protestants sur l'importance de l'enseignement. Jusqu'à partir, et heureusement, des années 60, eh bien, l'éducation nationale en Nouvelle-Calédonie a fait un effort considérable de rattrapage en direction de la brousse, en direction de l'intérieur et des îles, et c'est une bonne chose qui doit être saluée. Mais il y avait beaucoup à rattraper. On voit d'ailleurs que les premiers diplômés du monde mélanésien, eh bien, étaient formés pour la plupart dans les écoles des missions, catholiques ou protestantes. Le premier bachelier, ça date de 1962, c'était un élève de Saint-Léon qui a été maire d'Ouvéa. Donc chacun en Calédonie voit de qui je veux parler. C'est la première génération des bacheliers. 1962, c'est pas très loin. Donc, heureusement, après, eh bien, on a eu un développement et un certain nombre de personnes, des laïcs engagés dans la politique, se sont aussi penchés sur cette question. Je pense à Stéphane de Saint-Quentin, qui a fait un effort considérable dans le Conseil général de l'époque pour l'attribution d'aide et de moyens pour l'enseignement, et puis à des gens, alors de la génération de Jean Lec, qui aussi ont suivi de très près les différentes étapes qui nous ont amenés à la situation présente. Parmi les responsables de l'enseignement catholique, il faut citer des gens comme le frère Louis Edmond, frère du Sacré-Cœur, comme le frère René Huin, qui a fait un travail extraordinaire et qui avait sous un caractère qui paraissait un peu bourru, mais qui avait une connaissance des textes juridiques qui permettaient de faire avancer les affaires, qui étonnait tout le monde jusqu'au ministère à Paris. Et il faut penser aussi à des sœurs comme sœur Marie-Angela avec le père Boer, qui un petit peu avant avait préparé jusqu'aux années 70 l'évolution de la situation qui a conduit en 1970 à constituer un conseil d'administration de l'enseignement catholique. Et je dis bien de l'enseignement catholique parce que c'est le terme juridique. Quelquefois cela nous a été reproché d'utiliser le terme école catholique. Alors l'initiale est la même, si bien qu'il y avait une certaine flexibilité, mais comme l'a souhaité la Chambre régionale des comptes, il vaut mieux utiliser le terme qui est le terme juridique, conseil d'administration de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie. Voilà pour donc ceux qui ont beaucoup travaillé avec la mise en place des dispositions de ce qu'on appelle la loi Debré dans le système juridique français. C'est donc le frère René Huin en particulier qui avait une connaissance fine des dossiers et les hommes politiques qui ont accompagné, donc comme de la génération de Jean Lec. Voilà, alors après, eh bien, les choses ont été reprises avec celui qui a succédé, c'est le père Delbos et Étienne Zongo. Et l'un et l'autre ont été exactement dans la même ligne qui leur avait été tracée par le diocèse et qu'ils ont conforté et qui a permis d'avancer en sécurité sur le plan juridique. Et l'enseignement catholique a atteint jusqu'à de l'ordre de 15 000 élèves, alors que les deux enseignements protestants à la même époque avaient un peu moins de 5 000 élèves. Donc c'était extrêmement important d'avoir une gouvernance de l'enseignement catholique qui permette de faire face à une situation qui a évolué, qui en même temps a été difficile pour des raisons politiques que chacun connaît, puisque pendant toute une époque, l'enseignement catholique était aussi le lieu d'expression d'un certain nombre de tendances politiques qui ne trouvaient pas à s'exprimer ailleurs. Heureusement, après, ces tendances politiques ont pu s'exprimer dans les instances qui sont faites pour cela, comme l'Assemblée territoriale, comme le Congrès, et donc l'enseignement catholique a pu se pencher de nouveau spécifiquement sur ce qui est son objet, et sans quoi il n'aurait pas de sens, c'est l'éducation, l'accompagnement de la jeunesse.
Vous nous avez donné un historique rapide de cet enseignement catholique, et à l'heure actuelle, il tient encore une place importante dans le paysage calédonien.
Ah bien, il tient une place importante. Bon, quand j'ai l'occasion de venir au congrès, par exemple, pour des raisons de protocole où je dois être présent, eh bien, je trouve sur les bancs de cette institution, comme sur les bancs du gouvernement, un certain nombre des anciens élèves de l'enseignement catholique, y compris de mes propres élèves. Et donc, c'est bien, puisqu'ils ont été accompagnés dans leurs études pour être en mesure de prendre des responsabilités. Donc, de les retrouver dans ces fonctions-là, ça n'est que chose normale. Ça veut dire qu'ils ont non seulement appris les outils qui leur étaient nécessaires pour assurer ces responsabilités, mais également pris peut-être aussi le goût et l'intérêt de s'occuper des affaires de leurs concitoyens. Ça aussi, ça fait partie de l'enseignement. Quelqu'un qui recevrait une formation sans penser qu'elle peut servir à ses concitoyens, ça serait quelque chose qui serait un peu inquiétant.
Eh bien, s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront peut-être. Merci beaucoup, Monseigneur, et merci à vous, à mes auditeurs. Nous vous souhaitons donc un très bon dimanche et vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.